La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangez et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir.
Merci à vous et je vous remercie de supporter mes paroles. Une dame se décide à inviter des gens. Elle a l'habitude de le faire et elle se dit « Dimanche prochain, je vais inviter une dizaine de personnes, ça va être bien. » Et elle a une idée, elle dit à son fils Jérémie, tu vois, Jérémie c'est un petit garçon de 5-6 ans, elle lui dit « Tu vois Jérémie, j'aimerais bien que ce soit toi qui fasses la prière avant le repas la prochaine fois. » Alors Jérémie, il n'est pas tout à fait d'accord, il s'insurge un peu, il dit « Moi je suis petit, maman, avec tous ces gens, je ne sais pas quoi dire moi. » Et la mère le rassure, elle lui dit « Tu n'as qu'à répéter ce que tu m'as entendu dire tant et tant de fois. » Et la conversation s'arrête là. Le dimanche arrive, les convives sont là et tout le monde s'installe et la mère est fière de dire « Voilà, aujourd'hui c'est Jérémie qui va nous unir dans la prière. » Le silence se fait et on entend la petite voix de Jérémie qui dit « Mon Dieu, pourquoi encore cette fois-ci j'ai invité tant de monde ?» Des fois, on est un peu surpris quand on essaye de forcer la main de ceux qui ne se sentent pas très à l'aise avec la prière publique et on est parfois embarrassé, c'est vrai. Mais la prière est un instrument incroyable entre les mains du croyant, puisque les disciples ont vu que ça créait quelque chose, ça faisait quelque chose. Ils ont vu Jésus prier, et Luc nous dit que, voyant Jésus prier, ils lui ont demandé, hein, c'est les premiers versets du chapitre 11 de Luc, ils lui ont demandé, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Donc ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel dans la prière. Et on nous a encore parlé ce matin de la prière, de la réunion de la semaine prochaine. Et Jésus va dire, quand vous priez, dites ceci. Et on a le Notre Père, ce qu'on appelle le Notre Père, la prière qu'on connaît par cœur. On connaît plutôt la version de Matthieu. Celle de Luc est un peu plus courte, elle n'a pas de doxologie finale. D'ailleurs, cette doxologie finale n'existe pas. En réalité, il y a beaucoup de Bibles qui ne la mettent plus, parce que les manuscrits les plus fiables ne comportent pas cette doxologie. Mais, quoi qu'il en soit, on connaît généralement celle de Matthieu qui se trouve dans Matthieu 6, les versets 9 à 13. C'est le Notre Père que nous connaissons le mieux, que nous connaissons par cœur et que nous disons quelquefois. Et on a un peu tendance, à passer très vite sur les 5 ou 6 paroles qui commencent le Notre Père et à considérer que la prière, c'est avant tout quelque chose qui nous permet de faire des demandes. C'est un peu, on n'était pas loin de Noël, c'est un peu la lettre au Père Noël. Je veux ceci, je veux cela, j'ai été gentil, alors donne-moi ceci, donne-moi cela. Bon, et on réduit souvent la prière à des demandes. C'est vrai qu'il y a 7 demandes dans la prière traditionnelle de Notre Père, et on voit ça en premier. Mais heureusement, il y a les 6 petits mots qui précèdent, qui commencent la prière et qui sont, vous les connaissez, quelqu'un peut me les dire? Ah, c'est difficile, hein. Notre Père qui est aux cieux. Et ces petits mots vont donner tout le sens à la prière. C'est-à-dire que la prière ne va plus être constituée de demandes uniquement, mais va identifier cet être à qui nous adressons la prière. Et elle va établir une relation entre moi et lui. Et Jésus dit, appelez Dieu notre Père. C'est pas l'être suprême, c'est pas le Seigneur, le Dieu des armées, c'est notre Père. Et c'est important parce que c'est ça qui va montrer l'état d'esprit dans lequel je dois être quand je parle à mon Père, à notre Père. Pas simplement lui faire des demandes, mais dans quel état d'esprit je suis quand je lui fais ces demandes. Et parfois la prière, on a l'impression qu'elle ne dépasse pas le plafond de la chambre ou de l'église, mais peut-être que c'est après tout parce que nous ne sommes pas dans les conditions qui font que je m'adresse à mon Père. Alors c'est vrai que le Père, quand on pense Père, on pense origine. Je tiens ma vie de mon Père, de ma mère, bien entendu, puisque nous sommes dans la procréation et non pas dans la création. Et donc, il faut un Père et une Mère. Même si de nos jours, des fois, on ne connaît ni son Père et même ni sa Mère. On est né sous X. Et c'est terrible, on voit les enfants après qui cherchent toute leur vie qui est leur Père, qui est leur Mère. Mais nous, Jésus dit, vous avez un Père. Et déjà, affirmer ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque maintenant, l'idée qui est la plus répandue, c'est que nous venons de quoi? Ah, vous ne lisez pas les journaux, hein. Nous venons simplement du hasard et de la nécessité. C'est le titre du livre du professeur Monod, « Le hasard et la nécessité ». C'est-à-dire qu'on n'a pas de père. Les choses se sont faites toutes seules, quelque part, à un moment donné. Et déjà, quand nous disons à Dieu notre Père, c'est-à-dire nous affirmons quelque chose qui va à l'encontre de la pensée courante, commune. Mais on sait que Dieu a créé des choses, il les a créées. Et les 2 premiers chapitres de la Genèse sont intéressants parce que c'est toujours bon ou très bon. Malheureusement, il y a un chapitre 3. Et c'est là que ça se complique. Parce que le chapitre 3 va nous mettre dans une situation où Dieu ne devient plus un Dieu qui nous aime, un Dieu auquel nous pouvons avoir confiance, mais il devient un Dieu dont nous devons nous méfier. Et on s'aperçoit que quand Dieu dit « Où es-tu ?» à Adam, il dit quoi ? J'ai eu peur et je me suis caché. Et donc Dieu n'est plus un Dieu auquel on peut faire confiance parce que Dieu risque d'être dangereux à un moment ou à un autre. Et c'est ça le grand problème du péché, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance en Dieu et accessoirement on se fait confiance à soi-même. Et cette origine biologique, je dirais, du Créateur, que tout le monde a, parce que quand on remonte la généalogie de Jésus dans Luc 3, vous verrez, à la fin, on dit que Adam était fils de Dieu. Donc tout le monde descend de cette descendance biologique, en quelque sorte, mais Jean va rajouter quelque chose dans son évangile, dans le premier chapitre, dans le prologue de son évangile. Au verset 12, il dit que la parole est venue, mais qu'elle a été rejetée, les gens ne l'ont pas reçue, elle est même venue chez les siens, ils ne l'ont pas reçue, et à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Alors j'entends des bruits, mais j'entends pas très bien. Alors elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors il y a une descendance biologique, tout le monde descend de ce créateur, mais il y a aussi une descendance spirituelle. Et cette descendance spirituelle, il faut faire l'effort de saisir ce pouvoir qui est donné pour pouvoir vraiment devenir enfant de Dieu au sens spirituel du terme. Et ça, on a besoin de faire cet effort. Ça ne vient pas naturellement. Naturellement, on a tendance à peut-être à errer, à se séparer du Père. Et c'est là que c'est intéressant de faire le rapprochement entre ce début du Notre Père et ce qu'on vient de nous lire, ce que vient de nous lire Catherine, c'est-à-dire la situation du fils cadet de la parabole du fils prodigue. Il y a une phase 1 dans cette parabole du fils prodigue, c'est le moment où le fils en a assez de la maison du père. Il est fatigué, lui il veut autre chose, il veut vivre sa vie, il veut dépenser son argent comme il l'entend, ou plutôt l'argent du père. Il veut les paillettes, la vie, le luxe, et on nous dit la débauche. Il veut la débauche. Et il va partir, et le père ne lui dit rien, le père on voit qu'il ne réagit pas. On aurait pu penser que le père va l'empêcher de partir, non, il lui dit, tiens voilà, ta part d'héritage, tu peux y aller. Va faire ton expérience, on verra après. Et ça correspond à ce moment de la chute, hein, on fait le rapport avec l'origine, ça correspond à ce moment de la chute. Et la phase 2, c'est que les choses ne tournent pas à l'avantage du fils cadet. Il a faim, la famine survient, il n'a plus d'argent, et finalement il finit par garder quoi? Les cochons. Il finit par garder les cochons. Pour un juif, aller garder des cochons, c'est quand même le fond du puits. Il garde les cochons. Je ne sais pas si vous avez essayé de discuter avec des cochons, mais vous n'allez pas très loin. Donc, il est là, il est seul. La solitude, la faim, mal habillé. Et finalement, il se dit en lui-même, bon, c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. Et c'est ça la phase 2 qui commence, je retourne vers mon père. Et d'une certaine manière, quand on prie, en fait, on est dans cette phase 2, c'est-à-dire je retourne vers le père. Je retourne vers la maison du père. Et ce père, il n'est pas simplement la figure de ma vie, de mon origine, il est la figure de l'autorité aussi. Le cadet ne voulait plus être sous l'autorité du père, il voulait mener sa vie à sa guise. Quand il décide de retourner, il décide aussi, et par la même occasion, de se mettre sous la dépendance et sous l'autorité de son père. Et Spurgeon disait la chose suivante, qu'on ne peut pas prier de façon hypocrite. Disons, on ne peut pas prier de façon hypocrite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Dieu des bénédictions pour pouvoir les dépenser dans le pays lointain. Ce n'est pas possible. Si je reviens à la maison du Père et que le Père accepte de me reprendre, alors à ce moment-là, je me remets sous l'autorité du Père. Et je m'engage à obéir au Père. D'ailleurs, le Fils, quand il rentre, quand il prend conscience de sa situation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais dire à mon Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils, traite-moi comme un de tes ouvriers, de tes mercenaires, de tes esclaves, puisque le mot est le même, ouvrier ou esclave, c'est le même mot. Donc, traite-moi comme ça. Je vais me remettre, je vais revenir à la maison, mais maintenant, je vais obéir à la lettre, à tes lois, comme un mercenaire qui fait exactement ce que tu lui demandes de faire. Et donc, quand on prie, c'est ce qu'on veut dire à Dieu. Si on l'appelle notre Père, c'est-à-dire, je veux me remettre sous ton autorité. Le Père aussi, c'est la figure de l'amour, c'est la figure de l'affection, du lien paternel, du lien d'amour qu'il y a dans cette famille. Et quand le fils revient, le premier à le voir, c'est qui? C'est le père. Et s'il le voit le premier, c'est pourquoi? Parce que il attend. C'est parce qu'il attend tous les jours. Tous les jours, il est là en train de regarder au loin, là où la route se fond dans l'horizon, et il attend que le fils revienne. Il espère que le fils reviendra. Et un jour, c'est la joie, le fils revient. Et le texte dit que quand il est assez près, qu'est-ce que fait le père? Il lui dit: pas plus loin, reste là, bandit, tu m'as trahi, maintenant il faut qu'on s'arrange, qu'on discute. Non, le père, on nous dit qu'il court. Il court se jeter dans les bras de son fils, enfin en tout cas le prendre dans ses bras et l'embrasser. Et qu'est-ce qui est important pour le père finalement? Si vous remarquez bien dans le texte, quand le fils va dire « j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », il s'arrête là. Il ne dit pas « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Parce que le père ne lui a pas donné l'occasion d'aller plus loin. Le père le serre dans ses bras, il l'entoure de son amour et le fils, bon ben, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le père a déjà donné des ordres, donnez-lui une robe, donnez-lui des chaussures, donnez-lui aussi sa place de fils, puisqu'on lui redonne une bague. Alors on pense que c'est un colifichet pour faire joli, bon, pourquoi pas un collier, une bague, des bracelets, non. Cette bague lui sert à quoi? Avant, on ne signait pas souvent, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait sa bague, on mettait son empreinte dans la cire chaude pour marquer que c'était la décision qu'on prenait, pour signer un papier officiel, etc. Et donc, il ne le reprend pas comme serviteur, il le reprend comme fils, avec la dignité de fils, alors qu'il a gaspillé son argent, alors qu'il a tout perdu et qu'il revient pieds nus, le ventre creux et en guenille. Et il le reprend parce que le fils est revenu. Et ce qui importe pour le père, ce n'est pas ce qu'a fait le fils, parce que qu'est-ce que dit le père de cette situation? Mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et une des forces de la prière, c'est quand on s'est mis sous l'autorité du Père, ce Père, cette prière, ce rapport avec Dieu nous ramène de la mort à la vie. Il nous ramène du pays lointain jusqu'à la maison du Père. Et c'est après ça qu'on peut faire des demandes, parce qu'on est rentré dans une relation avec le Père, qui est une relation nouvelle, une relation filiale mais forte, où le Père m'a accueilli. Et c'est intéressant parce que on est revenu dans cette maison du Père et on est toujours traité comme un fils. On n'a pas une place subalterne. On est toujours traité comme un fils. Et quand je m'approche de Dieu, il faut que j'ai ce sentiment que je suis son fils. Je suis quelque chose à quoi il tient. Il a passé son temps à attendre que je revienne. Il a regardé la route jour après jour. Et il s'attend à ce que je revienne, mais si je reviens, alors je dois accepter de me remettre dans les conditions de celui qui obéit à son Père. Le texte nous dit que Jésus dit « notre Père ». C'est sûr qu'une fois qu'on a compris que le Père nous aimait, une fois qu'on a compris cet amour et qu'on a été dans ses bras, on se rend compte qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent être dans ses bras. On n'est pas le seul. Cette lignée biologique et cette lignée spirituelle, elle concerne d'autres personnes. Et le fait de revenir au Père, c'est revenir aussi à cette notion qui est importante. Dans Matthieu 22, on posait à Jésus cette question: quel est le plus grand commandement? Et Jésus va répondre, il va associer Deutéronome 6 et Lévitique 19, il va en faire un bloc et il va dire le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et il dit, et le second qui lui est semblable, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il dit, toute la loi et les prophètes dépendent de ça, c'est le cœur. Donc si Jésus avait simplement dit « Mon Père », il aurait manqué quelque chose. Je ne peux pas aimer Dieu sans aimer mon prochain. Jacques est très clair, il dit quoi ? Il dit, comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas alors que vous n'aimez pas votre prochain qui est à côté de vous ? C'est pas compréhensible. Si vous ne commencez pas par aimer votre prochain, vous ne pourrez jamais aimer Dieu. Et donc, on a cette obligation quand je prie, c'est-à-dire de ne pas prier que pour moi, de ne pas prier de façon égoïste, pour mes intérêts personnels uniquement, mais prier en faveur des autres et prier de façon à ce que je demande, moi, ne soit pas le contraire de ce que les autres peuvent attendre. Et par exemple, c'est pour illustrer le propos, quand on est en vacances au bord de la mer et que les vacanciers demandent à Dieu qu'il y ait du soleil pour qu'ils puissent se baigner, profiter, etc., il faut savoir qu'en même temps, et cette année ça a été le cas, il y a les agriculteurs qui sont dans les plaines côtières du bord de mer et qui sont en train de prier, eux, pourquoi ? Pour qu'il pleuve. Et prier en pensant aux autres, ça veut dire que je vais accepter que dans mes vacances, il y ait quelques jours de pluie. Et même, peut-être, si c'est une situation désespérée, que mes vacances soient complètement gâchées par la pluie. Parce que si l'agriculteur ne récolte pas, il se peut bien que moi, je n'ai rien à manger. Et c'est ça le sens aussi de la prière de ce Notre Père. Ce Notre Père nous permet de penser aux autres et de demander des choses qui sont compatibles aussi avec l'intérêt des autres. Alors le texte dit aussi, ces six petits mots, Notre Père qui est aux cieux. Alors les cieux, on se dit, bon, c'est très loin, peut-être Dieu est très loin, il ne nous voit pas, l'univers est infini, tout le monde le sait maintenant, même les scientifiques. Donc, on se dit, bon, est-ce qu'il m'entend, est-ce qu'il prend soin de moi, il est loin. Mais il faut savoir que si on a les pieds sur terre, au sens propre du terme, si on a les pieds sur terre, on a déjà la tête dans le ciel. Parce que le ciel, c'est l'atmosphère qui nous entoure. C'est ce qui fait que c'est bleu, là-haut. Mais ça commence tout de suite ici, au ras de mes yeux, au ras de mes oreilles. Donc, Dieu n'est pas si loin et Dieu est capable de m'entendre, même de façon physique. Il n'est pas loin de moi. La Bible dira même qu'il est dans mon cœur, donc on ne peut pas être plus près. Mais au sens spirituel, c'est aussi intéressant qu'il soit dans les cieux. Parce que les cieux, quand on lit Apocalypse 4, la scène du trône où on voit, on avait étudié l'Apocalypse dans l'école du sabbat, la scène du trône où on voit les vieillards et les êtres vivants qui adorent Dieu. Et ce que disent les vieillards dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est une phrase, une expression qu'on connaît bien, et ils disent au verset 8 du chapitre 4, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils sont pleins de Dieu tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Et ça, c'est l'espérance. Ça fait naître l'espérance parce que, je ne sais pas si vous avez beaucoup écouté les politiciens, et ces temps-ci, il y en a beaucoup qui parlent à la télé, qui parlent, il y aura bientôt des élections l'an prochain, et le gros problème avec les politiciens, quand on interroge les gens dans la rue, c'est quoi ? Hein ? On n'y croit plus ? Oui, mais pourquoi ? Ah, j'entends des voix. Je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais j'entends des voix. Voilà, Voilà. Ils ne tiennent pas. Et souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le tenir. C'est parce qu'une fois au pouvoir, ils se rendent compte que ce n'est pas faisable. Ou c'est trop difficile. Et ça, je veux dire, ça casse toute la confiance qu'on peut avoir. Toute la confiance qu'on peut leur accorder. Après, on s'aperçoit que malheureusement, ils n'ont pas pu faire les choses ou ils n'ont pas voulu faire les choses. Et dans ce cas-là, on nous dit que Dieu est à la fois saint, c'est-à-dire il est exempt du péché. Il n'est pas dans notre système qui est perverti par le mal. Il est à l'extérieur. Il est tout-puissant et il est éternel. Donc il peut tout. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il le fera. Et quand je dis que ce Père est dans les cieux, ça veut dire que j'ai toutes les raisons de penser que ce qu'il a dit, il le fera. Et Jean 14, Jésus a dit une chose qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça, c'est l'espérance qui jaillit de ce Père qui est dans les cieux. Pour prendre une image plus concrète, c'est un petit peu comme si nous étions au fond d'un puits, d'un grand puits. Nous sommes dans l'humidité, dans les miasmes et l'obscurité. Et quand nous levons la tête, nous voyons là-haut un espèce de rond de lumière. Et un visage dans ce rond de lumière. Parce que Dieu, il n'est pas dans le fond du puits. Il n'est pas dans le fond du puits, il est sur la margelle. Il est à l'air libre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il nous dit, saisis la corde que je te lance, la corde de la grâce que je te lance, et attache-la solidement à ta taille, et je vais te tirer. Et il a le pouvoir de le faire. C'est ce qu'il dit, Saint, 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 l'Éternel, le Tout-Puissant. Et il a le pouvoir de nous tirer. Et lorsque nous nous approchons de lui par la prière, nous mettons en œuvre ce pouvoir. C'est-à-dire nous raccrochons à lui. Et il est capable de nous ramener à l'air libre, à la lumière. Jusqu'au jour où la promesse s'accomplira, là où je suis, vous y serez aussi. Et c'est tout ça qu'il y a dans la prière, dans le Notre Père. Ce n'est pas simplement des demandes. Ce Notre Père, c'est j'accepte de revenir à la maison, j'accepte ton autorité, j'accepte d'aimer les autres, j'accepte de partager, et je suis sûr qu'un jour, tu seras capable de me sortir complètement du puits et que je serai avec toi sur la margelle du puits. Nous sommes dans une période de vœux, bien entendu, ça ne vous a pas échappé, on arrive à la fin de l'année, et tout le monde vous dit bonne année, bon, on vous souhaite des vœux d'une manière ou d'une autre, et je crois que ce matin, pour moi-même, bien sûr, pour ma famille et pour vous, je formulerai le vœu que l'année qui vient soit une année où nous puissions revenir à ce Père. Nous ne puissions pas laisser des journées entières passer sans prier. Sans nous raccrocher à lui, sans lui dire, voilà, je veux revenir à la maison, je veux te servir, et je sais qu'un jour, je te verrai. Et ça, c'est essentiel dans notre vie, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, en Thessaloniciens 5, 17, il leur disait quoi ? Priez sans cesse, ou priez continuellement. Alors on se dit, bon, c'est pas possible de prier continuellement, je dois travailler, dormir, manger, aller chercher les enfants à l'école, aller faire les courses. Mais il se rendait compte de la réalité, Paul. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Rester en contact avec Dieu dans vos activités, dans ce que vous faites, parce que par votre esprit, vous pouvez être en contact avec lui. Pas forcément par la prière formelle, mais par le lien de votre esprit, vous pouvez être en contact avec lui. Et donc, cette année, je vous dis bonne année, et je vous dis restez en contact avec Dieu.